Tu te souviens autrefois, dans L.A., quand tout le monde roulait en Chevrolet? Que s'est-il passé avec le garçon d'à côté, le mâle américain, cheveux en brosse et visage bronzé? The First Class, Beach Baby. Si vous voulez garder un secret, vous devez également le cacher à vous-même. George Orwell, 1984. Je me suis rendu compte, il y a bien des années, qu'un livre, un roman, est un rêve qui exige d'être écrit exactement comme vous tomberiez amoureux. Il devient impossible de lui résister. Vous ne pouvez rien y faire. Vous finissez par céder et succomber, même si votre instinct vous somme de lui tourner le dos et de filer, car ce pourrait être au bout du compte un jeu dangereux. Quelqu'un pourrait être blessé. Pour certains, les premières idées, les premières images, les turbulences initiales peuvent pousser l'écrivain à plonger dans le monde du roman, dans son charme et son rêve, ses secrets. Pour d'autres, il faut parfois plus de temps pour sentir clairement cette connexion. Des périodes beaucoup plus longues pour comprendre combien il était nécessaire d'écrire ce roman ou de tomber amoureux de cette personne, de revivre ce rêve, parfois des décennies plus tard. La dernière fois que j'ai songé à écrire ce livre, ce rêve singulier, et raconter cette version de l'histoire, celle que vous lisez, celle que vous commencez à découvrir, c'était il y a près de 20 ans, quand je pensais être capable de révéler ce qui nous était arrivé, à moi et à quelques amis, au début de notre dernière année de lycée à Buckley, en 1981. Nous étions des adolescents, des enfants vaguement raffinés, qui ignoraient tout des rouages du monde. Si nous en avions une certaine expérience, leur sens nous échappait. Du moins jusqu'au moment où quelque chose s'est produit qui nous a propulsés, expulsés, vers un état de conscience exalté. Quand je me suis assis la première fois pour écrire ce roman, 1 an après les événements, j'étais incapable de revivre cette époque, ou de renouer avec les personnes que j'avais connues, ou encore de faire face aux terribles incidents que nous avions vécus, à commencer par ceux qui, de manière cruciale, me concernaient particulièrement. En fait, sans écrire un seul mot, j'ai renoncé à l'idée de ce projet dès qu'elle m'a traversé l'esprit. J'avais 19 ans. Avant même que je m'empare d'un stylo et m'asseye devant ma machine à écrire, le simple fait de me remémorer ce qui s'était passé s'est révélé trop accablant. J'étais à un point de ma vie où je n'avais pas besoin d'une angoisse supplémentaire. Je me suis forcé à oublier cette période, du moins pendant un certain temps, et refouler le passé n'a pas été très difficile à ce moment-là. Mais le besoin pressant d'écrire le livre a fait son retour quand j'ai quitté New York, après y avoir vécu pendant plus de 20 ans. La côte Est était l'endroit vers lequel je m'étais échappé immédiatement après la fin du lycée, pour fuir le traumatisme qu'avait été la dernière année, et quand je me suis retrouvé à Los Angeles, où ces événements de 1981 avaient eu lieu, et où je me sentais plus aguerri, plus fort face au passé, capable de me cuirasser contre la douleur de tout le truc et d'entrer dans le rêve. Le fait est que ça n'a pas marché non plus. Après avoir tapé quelques pages de notes sur les événements de l'automne 1981, alors que je croyais m'être anesthésié avec une demi-bouteille d'ocho afin d'engager le processus, la tequila ayant pour effet de stabiliser le tremblement de mes mains, j'ai connu une crise d'anxiété tellement sévère qu'elle m'a envoyé aux urgences de Cedar Sinai au milieu de la nuit. Si l'on veut établir un lien métaphorique entre l'acte d'écrire et celui d'aimer, disons que j'avais voulu aimer ce roman, qu'il semblait enfin s'offrir à moi, mais que je me retrouvais, au moment de consommer cette relation, incapable de plonger dans le rêve. C'est arrivé tandis que j'écrivais sur le Trawler, un tueur en série qui avait hanté de sa présence la San Fernando Valley à la fin du printemps 1980, puis plus fortement à l'été 1981, et qui était de façon terrifiante lié à nous. Une vague d'anxiété tellement massive a déferlé sur moi cette nuit-là, pendant que je commençais à prendre des notes, que je me suis mis à gémir de peur au seul souvenir de ces événements et effondré en vomissant la tequila que j'avais avalée à grande goulée. Le Xanax que je stockais dans la table de chevet près de mon lit n'a été d'aucune aide. J'avais pris 3 comprimés d'affilée et je savais qu'il n'allait pas agir assez vite. J'ai composé le 911 sur mon téléphone et dit à l'opérateur que je faisais une crise cardiaque avant de m'évanouir. Le téléphone fixe depuis lequel j'avais appelé On était en 2006, j'avais 42 ans, je vivais seul. Les informés de l'endroit où je me trouvais, et un portier alarmé dans la tour où je vivais, a guidé l'équipe d'urgence jusqu'au 11e étage. Il a ouvert la porte de mon appartement et ils m'ont trouvé sur le sol de ma chambre. J'ai repris connaissance dans l'ambulance pendant qu'elle fonçait sur San Vicente Boulevard en direction de Cedar Sinai, pas très loin de Doheny Plaza où j'habitais. Et après avoir été poussé sur un brancard à roulettes vers les urgences et m'être réapproprié ce qui venait de se passer, je me suis senti vraiment gêné. Le Xanax faisait son effet, j'étais calme. Je savais qu'il ne m'était rien arrivé de grave physiquement. Je savais que la crise de panique était directement liée au souvenir du trawler, et plus spécifiquement de Robert Mallory, que j'avais convoqué. Un médecin est venu m'examiner, j'allais bien. Cependant, le règlement de l'hôpital exigeait que je passe la nuit là, afin qu'on puisse faire une série de tests, y compris une IRM, et mon médecin personnel a approuvé, me rappelant au téléphone que mon assurance couvrirait presque la totalité des frais. Mais il fallait que je rentre chez moi, et j'ai refusé tous les tests, parce que j'étais convaincu que si je restais à Cedars cette nuit-là, j'aurais sombré dans la folie. Sachant que ce qui m'était arrivé n'avait rien à voir avec mon corps ou une quelconque maladie que j'aurais ou non couvée. C'était juste une réaction liée au souvenir, au passé et à la conjuration de cette année atroce, à Robert Mallory et au trawler, à Matt Kellner et à Susan Reynolds, à Tom Wright et à Deborah Schaffer, et au sombre tunnel que je traversais à l'âge de 17 ans. Après cette nuit, j'ai abandonné le projet et j'ai préféré écrire deux autres livres au cours des 13 années suivantes. Et c'est seulement en 2020 que j'ai senti que je pourrais commencer Les Éclats. Ou plutôt que le roman Les Éclats avait décidé que Brett était prêt. Le livre s'annonçait à moi, et non l'inverse. Je n'avais pas tendu la main vers ce livre, car j'avais passé des années à m'éloigner du rêve de Robert Mallory, de ma dernière année à Buckley. Toutes ces décennies loin du trawler, de Suzanne et de Tom, de Deborah et de Ryan, de ce qui était arrivé à Matt Kellner. J'avais relégué cette histoire au fin fond du placard. Et pendant des années, cette stratégie d'évitement avait fonctionné. Je ne prêtais guère d'attention au livre et il avait cessé de m'appeler. Mais pendant l'année 2019, il s'est mis à remonter, à donner des signes de vie, à vouloir fusionner avec moi, à envahir ma conscience d'une façon si persuasive que je ne pouvais l'ignorer plus longtemps. Essayer de l'ignorer était devenu une distraction. Cette insistance singulière coïncidait avec le fait que j'avais cessé d'écrire des scénarios, que j'avais décidé de ne plus jouer ce jeu. Une décennie entière, bien rémunérée, à écrire des épisodes pilotes pour la télévision et des scénarios pour le cinéma, qui pour la plupart n'aboutissaient jamais à une série ou un film. Et j'ai brièvement médité sur le lien qui pouvait exister entre le livre qui me faisait signe et ma récente perte d'intérêt pour le boulot de scénariste hollywoodien. Aucune importance. Il fallait que j'écrive le livre parce que j'avais besoin de comprendre et de résoudre ce qui avait bien pu se passer. Il était temps. Enfin. L'étincelle qui a ranimé mon intérêt pour le roman a surgi au cours d'un bref moment. Des années après la crise de panique qui m'avait envoyé à Cedars. J'avais vu une femme, j'allais dire une fille, mais elle ne l'était plus, c'était une femme d'une cinquantaine d'années, mon âge, au coin de Holloway et de la Cienega, dans West Hollywood. Elle était sur le trottoir, devant le Pally House Hotel, portait des lunettes de soleil, téléphone pressé contre l'oreille, attendant une voiture, et même si c'était une version bien plus âgée de la fille que j'avais connue autrefois au lycée, c'était bel et bien elle. Je le savais, en dépit du fait que je ne l'avais pas vue depuis près de 40 ans. Elle avait toujours cette beauté naturelle. Je venais de tourner à gauche sur Holloway et j'étais bloqué par la circulation lorsque j'ai vu la silhouette sur le trottoir désert, sous l'auvent d'un service de voiturier. Elle se tenait peut-être à 6 ou 7 mètres de moi. Au lieu d'être joyeusement surpris par la présence d'une vieille amie, j'ai été pétrifié par une angoisse soudain drapée sur moi et me glaçant jusqu'aux os. La vision de cette femme a provoqué le retour de la peur en moi et a commencé à tout avaler, exactement comme en 1981. Cette femme me rappelait que tout avait été réel, que le rêve s'était produit, qu'en dépit des 4 décennies écoulées depuis la dernière fois que nous nous étions vus, nous étions toujours liés par les événements de cet automne 1981.